Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
RMC, les grandes gueules.
Si le gouvernement n'entend pas que la cocotte est en train de bouillir, si le gouvernement n'entend pas qu'il y a besoin de prendre des mesures fortes visant à s'attaquer à la spéculation, pas continuer de faire des petits chèques parce que ça nous coûte un bras, mais de s'attaquer aux causes de la spéculation, eh bien oui, il faudra pousser par tous les bouts, et s'il faut demain réoccuper les ronds-points pour dire stop, basta, il faut agir, eh bien il faut le faire.
Voilà l'appel de Fabien Roussel.
Alors c'est là où on voit la fin quand même des syndicats, parce que Fabien Roussel qui demande au peuple d'aller sur les ronds-points. À quoi servent les syndicats? Ils n'existent plus.
Et ça montre aussi même peut-être aussi la fin un peu des politiques, parce que quand un politique appelle à manifester, ça veut dire que son action elle-même n'a pas d'efficacité. Mais au-delà de ça, c'est vrai que avec les aides, là, les ristournes qui vont s'arrêter, il y a encore 10 centimes jusqu'à la fin de l'année, et ensuite il y aura plus rien. Il y aura une aide ciblée, mais on ne sait pas précisément comment. C'est sûr que l'essence va coûter beaucoup plus cher. L'essence va coûter cher au moment où nos factures vont augmenter, malgré le fait que le gouvernement a décidé de plafonner l'augmentation. On va quand même payer beaucoup plus cher le gaz, l'électricité, cet hiver, entreprises et particuliers. Et donc, effectivement, comme le dit Fabien Roussel, la cocotte est en train de bouillir, et pour moins que ça, les gilets jaunes étaient descendus dans la rue pour manifester. En même temps, du côté du gouvernement, on pense que a priori, il n'y aura pas de mouvement social. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a quand même beaucoup d'argent, des milliards d'euros qui ont été déversés pour essayer de limiter l'inflation. On est d'ailleurs l'un des pays qui a le plus donné d'argent aux gens pour limiter l'inflation, même si bien sûr c'est pas suffisant, mais il y a quand même une enveloppe de 46 milliards d'euros qui a été votée dans le projet de loi de finances pour aider les ménages à payer leurs factures. Il y a eu les 25 milliards d'euros qui étaient bloqués cet été dans le cadre du paquet de pouvoir d'achat. Il y a aussi 8 milliards de l'aide pour le carburant. Enfin, ça fait quand même beaucoup de milliards. Il faut quand même comprendre que finalement, on a une inflation, mais elle est peut-être un peu moins forte que nos voisins. Est-ce que ça suffit pour calmer tout le monde? Ou au contraire, vous pensez qu'on pourrait assister à un retour des gilets jaunes?
32-16 pour le dire au GG, le dire au grand gueule Bruno.
Toute la difficulté pour le gouvernement, mais depuis le départ, depuis l'avènement des gilets jaunes jusqu'à maintenant, sur toutes ces augmentations, c'est d'essayer de savoir comment on pourrait aider ceux qui sont les plus précaires. Et qu'on doit vraiment aider eux. Et l'ensemble de la population, les 70 millions de
personnes. Parce que les gilets jaunes,
si on ne peut pas aider 70 millions de personnes, c'est ça
jaunes,
le problème de notre.
C'est pas les plus vulnérables. Je suis d'accord avec lui.
Les gilets jaunes, c'était c'est pas les gilets jaunes. C'est les Français qui travaillent
et qui ont perdu du pouvoir d'achat.
J'ai l'impression qu'avec leur travail, ça ne suffit pas pour vivre correctement.
Je suis d'accord, mais il y a une équation à trouver, justement. Le nombre de millions de gens qu'on a besoin d'aider et les 70 millions dans leur ensemble qu'on ne peut pas aider éternellement, parce qu'on voit quand même tout le fric qui est dépensé.
On se souvient quand même. Les gilets jaunes et l'occupation.
Il va falloir le payer, les entreprises vont devoir le payer.
L'occupation des ronds-points, c'était parti de, on disait, la France périphérique, de la diagonale du vide, des provinces. Est-ce que tu le sens, toi, vers chez toi, dans l'Aude, de nouveau, cette colère et cette envie de ressortir ou pas?
Pas vraiment. Moi, je vois les artisans, ça bosse, même ils sont surmenés de demandes de chantiers extres. Non, c'est vrai que je le ressens pas nécessairement. J'y suis pas toujours, évidemment, dans mon village, mais tous les retours que j'ai même de mes élus, effectivement, on le ressent pas encore, très sincèrement.
Kauter.
Tu le ressens pas encore, peut-être parce que tu es dans une très petite bourgade, mon cher, mais c'est vrai que les gilets jaunes, nous, à Marseille, dans la grande ville, on en a pas eu, c'était toutes les villes avoisinantes, ouais. Istres, Fos, etc., qui sont des villes qui travaillent, tu vois, où il y a des villes ouvrières, tu
beaucoup
vois.
De gens précaires.
Mais effectivement, je te rejoins parce que les gens se plaignent que les quartiers populaires ne les rejoignent pas. Mais c'était pas la bataille des quartiers populaires qu'ils étaient déjà dans une situation précaire. C'était vraiment la classe moyenne qui part en vacances régulièrement, qui vit correctement au départ, qui a perdu un gros pouvoir d'achat. Mais moi, je vais te dire, franchement, et pourtant je suis quelqu'un de très très engagé. Je pense pas que les gilets jaunes aient été une réussite. Je pense que ça a été des manifestations qui ont été hyper violentes pour les deux parties, que ce soit les manifestants qui réclamaient de vivre mieux de leur salaire pour le coup, que pour la police qui a été épuisée par les gilets jaunes. Tu vois, ils en pouvaient plus, les mecs. Moi, je les voyais. Ils les baladaient. Tu vois, ils faisaient des parcours qui avaient ni queue ni tête parce que justement, c'était pas des parcours militants. Et ça a été pour moi un échec parce que il est ressorti quoi des gilets jaunes? Quelle mesure gouvernementale nationale a été adoptée à la suite de ce mouvement pour protéger les gens sur ce qui réclamait, à savoir un pouvoir d'achat plus correct de leur salaire. Donc je suis pas sûre que dans ce contexte post-Covid où tout est compliqué, où les entreprises n'arrivent plus à vivre, et là je parle des petites entreprises, pas des grands patrons qui se gavent, etc., etc. Je pense que le meilleur moyen d'action, tu vois, et c'est là où j'en veux aux politiques, c'est que eux ils sont dans une tour dorée, ils sont protégés de tout, et ils agitent le petit peuple, tu vois, à leur donner des solutions, enfin à leur proposer des solutions qui n'en sont pas, alors parce qu'ils sont juste désespérés, et qu'encore une fois, on peut pas aider 70 millions de personnes. Je te l'accorde. Il faut juste, à un moment donné, que les gens, je le répète à chaque fois, puissent vivre décemment de leur emploi.
Moi, je suis pas sûr que c'est de l'aide que demandaient les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, d'ailleurs, ne voulaient plus de la taxe carbone. Ils voulaient qu'on leur foute la paix avec les taxes et les impôts. Et au contraire, ils veulent moins de contraintes. Et ils voulaient simplement pouvoir vivre de leur salaire. C'est donc ça. C'est pas de l'aide, ça.
C'est
justement, je pense que là, peut-être que le gouvernement fait une erreur et c'est un contresens. Les Français ne veulent pas qu'on les aide à tout
ils
va.
Veulent travailler
ils veulent simplement pouvoir vivre de leur boulot.
Ouais, c'est mais ça. Olivier, moins de taxes dans les caisses de l'État, c'est moins d'aide. Le cercle.
Oui, mais justement, si tu taxes de moins,
tu contredis.
Contredis.
Tu redistribues.
Tu sais que le carburant, il est quand même taxé à hauteur de 4%.
Oui.
Donc surtout la TVA sur un litre de carburant qui coûte 1 euro, c'est.
J'entends bien, ça rentre dans la caisse de l'État.
Il y a 64 centimes qui rentrent dans l'État.
Oui, mais les milliards qu'a énumérés tout à l'heure Olivier,
oui, c'est des impôts.
Quand tu enlèves 30 centimes.
Je sais pas si l'équation est aussi simple.
Quand tu enlèves 30 centimes d'aide alors que le carburant il est à 1,70€, 1,80€ en moyenne, pour un plein, c'est un budget, hein. Tu vas rajouter entre 20 et 25 euros par plein. Pour un véhicule qui prend à peu près entre 80 et 100 litres. Donc je suis désolé, mais c'est de l'argent en plus. Ne l'oublie pas, Bruno, c'est de l'argent en plus dans les caisses de l'État.
Bien sûr. Mais qu'on redistribue.
Peut-être
maladroitement, mais on le redistribue, cet argent.
Mais alors, au lieu de le redistribuer, pourquoi tu ne le prends pas à
directement
l'origine? En fait, je comprends pas. Pourquoi, en fait, je te prends.
Tu baisses pas les impôts.
Voilà, je te prends d'une main pour te donner d'une autre main. Mais j'ai pas besoin que tu me donnes. J'ai pas besoin que tu me donnes. Moi, alors, je touche du bois. C'est pas pour moi. Mais, excuse-moi, mais des personnes qui sont en situation précaires ou difficiles, ou même qui sont en situation juste, ils travaillent mais ils n'arrivent pas à payer leur plein d'essence ou de gasoil à 100€, 120€, 130€, et tu te dis que sur le plein de 100€ que tu mets, il y a 64€ qui vont directement en taxes. Excuse-moi, ils ont la légitimité de faire la gueule. Oui. Ils l'ont, cette légitimité. Parce qu'on dit, oui, c'est les grands groupes pétroliers. Mais les grands groupes pétroliers, ce sont des entreprises privées. Ils ne font que 36% de ce que gagne l'État en ne faisant.
C'est surtout l'État, hein,
rien. Donc, je suis désolé, Bruno, tu sais,
c'est très vicieux. Il s'enrichit, mais il redistribue. Il y a tellement de pauvreté.
Il n'y a pas que le carburant.
Il y a tellement d'aide sociale pour aider nos compatriotes.
Mais regarde, les clubs.
Toi, tu n'en as pas besoin, moi non plus.
Mais il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui touchent 1500€.
C'est pas une question d'en avoir besoin.
Excuse-moi, il y a des gens qui touchent 1500€.
Moi, je suis d'accord avec.
Il y a des gens qui touchent 1200€, 1300€. Quand tu leur enlèves 100 ou 150€ de plein, c'est un dixième de leur budget, hein. C'est énorme. Alors, allez bosser, hein. C'est pas pour aller en vacances.
On va donner la parole à Jérôme Rodriguez, figure des Gilets jaunes, qui est avec nous. Je sais qu'il écoute régulièrement les grandes gueules. Bonjour, Jérôme.
Bonjour.
Bonjour à vous, madame, messieurs, bonjour.
Est-ce que la colère est suffisamment là pour que les ronds-points soient de nouveau occupés ou pas?
Alors, de nouveau, c'est un mot qu'il faut pas utiliser. Il faut savoir que samedi dernier, il y avait déjà 80 ronds-points qui étaient repris. Il y a constamment le samedi, par période épisodique, des gens qui viennent sur les ronds-points pour pouvoir discuter avec l'ensemble de la population aujourd'hui des problèmes qu'on peut tous rencontrer les uns autant que les autres. Donc, cette façon à chaque fois de mettre le préfixe « re » avec « revienne »,« retour », non, c'est... Ils sont toujours là, et quoi qu'il advienne, ils sont
moins
présents dans la rue, en termes de nombre, mais si on se place à l'échelle des réseaux sociaux et des retours que moi je peux avoir en termes de courrier, en termes de retour du niveau de vie que peuvent avoir les gens aujourd'hui, c'est catastrophique.
Ça, c'est Jérôme, 80 ronds-points sur 36 000 communes, c'est quand même pas une mobilisation extraordinaire.
Et à l'époque, chez Pascal Pro, on disait qu'avec 36 000 communes, 36 000 ronds-points, c'était pas suffisant non plus. Donc à un moment donné, c'est pas le fait qu'on soit nombreux ou pas, c'est la contestation aujourd'hui qui a été étouffée au maximum. Et aujourd'hui, moi c'est simple, j'ai encore vu un message cette nuit où quelqu'un m'a dit « Jérôme, quand je vois ta gueule, j'ai pas envie d'aller en manifestation, j'inspire la terreur, j'ai un œil crevé ». Donc forcément, aujourd'hui, les gens ont peur d'aller le manifester.
Mais est-ce qu'aujourd'hui...
Pas là pour parler de la violence. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur le fond du sujet et je voudrais dire à monsieur Kader, c'est ça, si j'ai bien retenu son prénom.
Mehdi.
Quand Mehdi nous dit que sur un billet de 100€ d'essence, on nous prend 60€, aujourd'hui, la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cet argent.
Oui,
moi, je vais vous donner un exemple.
Vous avez raison.
Précis. Je vais vous donner un exemple très précis. L'année dernière, quand le gaz a pris 57%, ça a ramené un excédent budgétaire de 7 milliards d'euros dans les caisses de l'État. 7 milliards de fraîches qui n'étaient pas prévues. Sur ces 7 milliards, on a pris 10%, on a donné 700 millions sous forme de chèque énergie. 700 millions pour tous les Français qui galèrent au terme d'énergie. Tous les Français aujourd'hui galèrent sur l'énergie, quoi qu'il advienne. Même le boulanger, comme le mec qui est chez lui. Donc, à un moment donné, moi aujourd'hui, il me manque un chiffre qui est le suivant. Quel est l'excédent budgétaire depuis le début de l'année sur les prix à la pompe au carburant? Parce que cet excédent budgétaire, si déjà sur le gaz à 57%, on est à 7 milliards, j'imagine même pas les milliards de fraîches qui sont arrivés.
Jérôme, derrière, si je peux me permettre.
Juste une minute.
Bien sûr.
Quand vous dites, on prend d'un côté pour enlever de l'autre, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? On peut pas baisser directement les taxes?
Voilà, c'est ça, c'est ce que je dis.
C'est
ce que je demande, moi je demande rien d'autre.
Je finis juste une chose, parce qu'à un moment donné, les gens se sont mis des coups de couteau. Pénurie d'essence qui a lieu il y a quelques semaines et encore aujourd'hui. Mais quand il va y avoir la pénurie dans les porte-monnaies de thunes, à qui vont mettre des coups de couteau? Parce que c'est là le danger. Moi, le Rodriguez qui casse des vitrines. Moi, je vous dis aujourd'hui, on va arriver sur des schémas de violence. Parce que ça devient catastrophique, les prix.
Oui, mais alors justement.
Et au-delà des prix en rayon, allez voir, parce que vous avez la légende qui dit que Rodriguez, il est plombier. Rodriguez, il a traîné 20 ans dans les Carrefour, les Leclerc et autres grandes surfaces. Et je vous dis, moi, à l'état des rayons, et c'est un œil professionnel qui vous parle, il y a un sérieux problème, les gars.
Mais alors Jérôme, justement, moi je ne crois pas au retour des gilets jaunes, parce que dans l'histoire des mouvements sociaux, on a rarement fait deux fois la même chose. On peut avoir la colère peut être toujours la même, mais c'est rare qu'on refasse exactement la mobilisation. Mais est-ce qu'il faut pas inventer justement de nouveaux modes d'action justement pour obtenir ce que vous voulez obtenir?
Aujourd'hui, vous avez un projet de loi qui met en place que si on vient ouvrir les barrières de péage pour rendre gratuit aujourd'hui la liberté de circuler, on va se prendre 1000 balles d'amende. Vous savez à combien je suis d'amende aujourd'hui? Parce que j'ai eu l'affront d'aller manifester au-delà de mon œil, je suis à plus de 10 000 euros.
Jérôme.
Mais voyez, alors moi je vais juste vous dire, comment vous dire, aujourd'hui le problème qui va se poser, c'est que vont arriver sur le marché de la précarité, le marché de la misère, des gens qui n'ont jamais eu la chance ou la malchance d'y accéder. Nous on nous a appelés les sans-dents. Bah, preuve en est qu'on n'a pas eu beaucoup de mordants parce qu'on s'est fait déglinguer, on est retourné à la maison. Mais ceux qui vont arriver aujourd'hui sur le marché de la précarité sont des gens qui ont encore la chance d'avoir des dents, voire des bris. Je vous garantis que dès que la première canine, elle va sauter, ils vont peut-être mordre beaucoup plus fort que les gilets jaunes. Alors vous qui vous inquiétez des schémas de violence, faudrait peut-être à un moment donné voir les choses autrement. Parce que quand vous allez sur une manifestation à Saint-Étienne, pendant la prime énergie, et vous demandez aux gilets jaunes qui gagne plus de 1146 euros, enfin qui déclare plus de 11046 euros par an, vous avez 90% des gilets jaunes qui lèvent la main. Ça veut dire qu'aucun ne toucherait la prime du chèque énergie. Alors, on...
Jérôme, question de Bruno Pomard.
Jérôme, juste une question, on se connaît bien. Le mouvement Gilets jaunes, il s'est tué tout seul, mais il s'est tué un petit peu à cause de leaders dont tu fais partie, qui ont joué un petit peu solo dans cette affaire-là.
Non, il n'y a pas de solo. Moi, je ne joue pas solo. Moi, la télé, j'en ai rien à foutre. La notoriété, la notoriété, la lumière que je me prends sur la gueule, elle est sale et dégueulasse parce qu'il faut que je me mette à répondre à toutes les insultes et tous les quiproquos et le manque de réponses que vous pouvez avoir à l'échelle de ce qui s'est passé la semaine dernière, vu ce que j'ai ramassé sur la gueule. Parce que vous imaginez l'affront de Rodriguez rentrer à l'Assemblée nationale parce que c'était un gilet jaune. Mais je vous garantis qu'à un moment donné, moi, quand j'enlève mon gilet jaune, ben j'ai les mêmes idées. Elles ne changent pas. Je suis pas un citoyen. Moi, quand je mets un gilet jaune, j'ai pas le droit d'avoir des idées, j'ai pas le droit de revendiquer.
Oui, en même temps, la provocation.
La question de savoir, c'est comment obtenir gain de cause. Voilà, c'est ça.
Provocation, Jérôme, sur la police, tu sais très bien.
Malgré les embrouilles qu'on peut avoir, toi et moi, que je suis le premier à pouvoir passer.
Je peux pas te laisser dire ça.
Tu as provoqué beaucoup la police et les gendarmes sur le terrain. Si, mais moi je le sais.
J'ai fait plein de manifs. Il y a eu un tournant de violence avec les manifestants. C'était sous la loi El Khomri. Avant, j'amenais mon fils manifester. Depuis la loi El Khomri, j'amène plus mon fils avec moi, alors que c'était juste, on manifestait, on était des mamans pour revaloriser nos salaires, tu vois, c'était ça. Et moi, je suis désolée. Il y a eu de l'abus. J'ai commencé par ça tout à l'heure. C'est des manifs, les gilets jaunes, qui ont été extrêmement violentes pour les deux parties. Il y a eu, voilà.
Mais parce qu'ils n'ont pas su s'organiser.
Moi, quand j'ai vu la police prendre l'infirmière et la traîner
par.
Ça y est, c'est parti.
Et le cliché.
On n'a pas le droit de te répondre, mon cher Bruno.
Demande à Jérôme s'organiser avec ses amis et de faire de vraies manifestations avec des services d'ordre et autres. Il n'y aurait pas de problème
comme
ça.
Non, je suis désolée. Une vraie manifestation, moi, j'ai jamais déposé une manifestation, j'ai jamais eu de service d'ordre.
Une manifestation qui se passe bien, qui a
Exactement. c'est ce que je veux te dire. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est qu'il y a eu pendant, il y a eu un basculement avec Castaner. D'accord, c'était lui ministre de l'Intérieur à l'époque. Oui, non, mais vraiment. Regarde, je suis pas une gilet jaune. Je fais pas des clichés. Je te dis que moi, en tant que personne qui manifestait au passé de manière très régulière, j'ai observé que des deux côtés, c'était extrêmement violent. Ouais. Voilà, au moment des gilets jaunes. Voilà, et je dis pas que
merci
toute la
Jérôme.
Police a tort et que tous les manifestants ont tort.
Merci à Jérôme Rodriguez d'avoir été avec nous. On va continuer la discussion. La précarité qui monte, l'inflation, la fin de la ristourne. Est-ce que vous pensez que le mouvement des gilets jaunes, alors Jérôme dit repartir, puisse s'amplifier sans repartir et puisse s'amplifier puisqu'apparemment il y a déjà des ronds-points qui sont occupés. Bon, on continue d'en parler avec vous au 32-16. Vous êtes sur RMC, RMC Story, c'est l'heure des grandes gueules et il est 10h20. On revient à notre discussion sur les gilets jaunes. Peuvent-ils retourner sur les ronds-points? Bonjour Yves.
Bonjour.
Bonjour, vous m'entendez bien Yves?
Oui, parfait.
Ah d'accord. Est-ce que effectivement l'occupation des ronds-points est en train de reprendre?
Alors bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Je suis un peu d'accord avec ce que disait Jérôme. Nous, par exemple, sur Tarbes, nous tenons un marché. Nous sommes sur le marché tous les samedis matins depuis 4 ans sans discontinuer. Bon, peut-être 2-3 samedis par là, on a fait l'impasse. Donc on est présent partout. Alors effectivement, il faut pas non plus se voiler la face. La mobilisation n'est pas celle qu'il y a eu il y a 4 ans. C'est une évidence. Mais elle s'est transformée. Vous savez, je crois que de la colère, on est passé à l'action, de l'action, on est passé au projet. On est dans les projets. Les gilets jaunes sont toujours là, mais en termes de projet. On s'est monté en fédération d'associations de gilets jaunes, on s'est monté à coordination nationale des groupes historiques du mouvement, et on est tous en lien. Il n'y a pas une journée où j'ai pas ou Jérôme, où j'ai pas ou quelqu'un dans le Var, ou quelqu'un de La Rochelle, ou quelqu'un de Belgique, ou quelqu'un de Guadeloupe avec Jade. On est en réseau en permanence et on construit. On a été à l'Assemblée des Assemblées, on les a toutes faites, on a été aux universités citoyennes, il y a encore eu des réunions il y a un mois dans le Var ou en PACA. Enfin, bref, on est là, on y est. On s'est présenté aux élections législatives. Moi, je me suis présenté aux élections législatives pour essayer de pénétrer les institutions, parce que ces grosses institutions de la 5e République, c'est comme un gros cargo un petit peu, et la meilleure façon, si vous voulez, de dévier la route de ce cargo, c'est de rentrer dans le cockpit, quoi. Voilà. Donc, on essaie de faire ça. On a beaucoup appris. On a argumenté les propos, on a fait de la littérature, on a invité des gens, nous on a travaillé avec Pierre Larouturou sur la taxe Tobin, on a travaillé avec des responsables d'institutions, on a essayé de rentrer un petit peu à l'Assemblée nationale sur la table ronde qui concernait le vote blanc, parce qu'on est sur la prise en compte.
Et vous pensez que Yves, d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine, il peut se passer quelque chose ou pas, que le mouvement reprenne de l'ampleur, franchement, ou pas?
Alors, moi,
gouvernement a aidé hein, avec les chèques inflation, les chèques énergie, l'inflation est mieux contenue en France qu'ailleurs, donc c'est à prendre en compte ça aussi.
Alors tout à fait. Deux questions dans une. Le gouvernement a aidé et est-ce que le mouvement peut reprendre? Alors le gouvernement non n'aide pas là. Le gouvernement nous installe dans la précarité. Quand on n'augmente pas le pouvoir d'achat et qu'on donne des chèques pour nous aider, on installe l'individu et les citoyens et le travailleur dans la précarité. Oui. Nous, ce qu'on demande, c'est la possibilité de vivre dignement avec les salaires, pas dignement juste pour payer à manger, dignement pour aller au resto, dignement pour sortir, dignement pour voyager. Mais alors,
vous êtes artisan, donc ça ne dépend que de vous, en tant qu'artisan, de trouver des clients, de vous développer, de bien gagner votre vie.
C'est une bonne intervention de votre part comme de l'autre. Mais effectivement, moi en tant qu'artisan, moi ça fait plus de 20 ans que je suis artisan. Je suis aussi dans des clubs d'affaires parce qu'on essaie de se mobiliser un peu entre artisans pour s'aider. Moi j'ai l'URSSAF qui m'a fait un rattrapage de notre monde où ils sont en train de me prélever plus que ce que je gagne. Ils m'ont dit quand je les ai au téléphone, ils me disent on sait monsieur Castera, on connaît le problème, on sait qu'on fragilise les entreprises, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc on est en train de payer des cotisations fortes, impressionnantes, mais sans traçabilité. On ne sait pas où va l'argent.
L'argent, le problème, c'est qu'on a l'impression que ça va dans un truc sans fond, et qu'aujourd'hui, tout ce qui est service public, ça se dégrade. Et donc, on est beaucoup prélevé, et on n'en a pas pour notre argent, c'est le cas de le dire.
Pire que ça, que ça. Pire que ça. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de la caisse d'amortissement de la dette sociale. C'est la CADES. Vous voyez qu'en tant que gilet jaune, on a progressé, on s'est documenté. La CADES est prélevée sur la TSG, sur le RDS. Sauf que la CADES, comme ils ont trouvé dans les années 80 avec Mitterrand, comme ils ont trouvé que la CADES faisait énormément d'argent, cet argent part à la spéculation. Ça, ce sont les économistes atterrés qui le disent. Ce sont des docteurs en économie qui ont sorti cette affaire-là. Ça veut dire que notre CSG et notre RDS, nos cotisations sociales, partent à la spéculation. Mmh. Donc effectivement, vous avez raison, c'est un puissant fonds, mais c'est un puissant fonds qui part à la spéculation. C'est-à-dire que nos cotisations sociales, les services publics de la santé, par exemple, se dégradent, 6000 lits fermés pendant la crise sanitaire. Et nous, nos cotisations augmentent. Donc oui, les gilets jaunes doivent être dans la rue, et c'est pourquoi nous appelons avec Jérôme et bien d'autres, et nous, on appelle à Tarbes à venir à 19h en place de Verdun à Tarbes.
Voilà. Quand ? Mais quand ? Oui, mais quand ?
Ce soir.
Yves, 19h à Tarbes.
Yves, une question, parce que visiblement... visiblement, vous arrivez à structurer ce mouvement Gilets jaunes, puisque vous avez monté une fédération. Est-ce que vous n'avez pas peur que des leaders, dont fait partie Jérôme Rodriguez en particulier, mais d'autres, McFly et autres, prennent le lead, parce que c'est ce qui a tué le mouvement Gilets jaunes.
Alors, vous avez suivi. D'accord, et c'est une question cruciale dans ce mouvement-là. Ouais. Ce mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement exceptionnel, pacifique. Depuis 1945, on n'a pas rencontré un mouvement tel que celui-là. Alors, effectivement, pacifique. Il y a le problème du leader.
Excusez-moi, pacifique, vous avez dit ?
Oui, alors je veux vous dire pourquoi. On n'a jamais vu, moi j'ai fait toutes les manifs ici dans la région, on a les copains de la Fédé qui ont fait des manifs partout et on a des retours d'informations. Alors effectivement, s'il suffit d'endosser un gilet jaune et de casser une vitrine ou d'insulter la police pour dire les gilets jaunes sont, effectivement, il y a eu de la violence. Mais qui a cassé ? Voilà, à qui a profité ce crime-là ?
C'est le problème de l'amalgame.
Mais voilà. si vous voulez être crédible, mon cher Yves, permettez-moi de vous donner un conseil. Organisez-vous des services d'ordre, comme le font les grands syndicats, et ça évitera évidemment des débordements. Merci. Et des interventions de la police.
Merci à Yves, dans tous les cas, d'être intervenu de Tarbes, Yves, de la Fédération des Gilets jaunes.
Non, mais en fait, les problèmes soulevés par les Gilets jaunes il y a 4 ans sont toujours là, et encore plus peut-être.
Ils sont amplifiés.
Parce que la différence, il y a 4 ans, il n'y a pas d'inflation. Maintenant, il y a l'inflation qui s'est en plus rajoutée. Et donc, ce sentiment que finalement, avec le salaire, le travail, on s'en sort pas et que ça suffit pas pour bien vivre, il est toujours là.
Ouais, il est là.
Après, les gilets jaunes, je suis désolé, ça a été un échec. Enfin, ça a été un échec. Il faut peut-être relativiser. C'est-à-dire qu'ils ont quand même obtenu des choses, puisqu'on va à l'époque,
il y a eu
10 milliards. Les 10 milliards, on sait pas trop qu'ils ont été saupoudrés. Voilà. Finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste de ces 10 milliards? Ça a été un échec dans le sens où finalement, ils ont pas réussi à concrétiser politiquement. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Jérôme. Il fallait des leaders dans tout moment. Il faut des leaders.
C'est Bruno,
pardon. Jérôme, c'est l'autre. Non, mais il faut toujours des leaders dans un mouvement, parce que s'il n'y a pas de leader, à un moment donné, tu ne peux pas le porter politiquement.
Mais t'as vu comment c'est parti en bazar, vous les avez reçus sur vos plateaux.
Oui, mais parce que les leaders.
Ils sont plus pour les stars que pour les leaders.
Oui, mais ils s'entretuaient entre. Enfin bon, bref, ouais. On ne va pas refaire toute l'histoire des Gilets jaunes, mais le problème de fond soulevé par les Gilets jaunes est toujours là. Comment le résoudre, c'est toute la question.
C'est Jean-Michel qui est avec nous, qui nous appelle du Gard. Bonjour Jean-Michel.
Oui, bonjour.
Vous, le prothésiste dentaire. Alors, quel est votre camp, mon cher Jean-Michel ?
Alors, moi, j'ai fait les premiers ronds-points, on va dire. Après, j'ai arrêté parce que, bon, la violence, c'était pas mon combat. Par contre, là, je pense que ça va reprendre. Ça va reprendre peut-être pas de suite. À mon avis, ce qui va tout déclencher, c'est la réforme des retraites.
Ah, c'est possible.
Voilà.
Ah, c'est très possible.
La réforme des retraites.
Ah, c'est très possible. Je pense que oui.
Ça va redémarrer.
Vous savez pourquoi, Jean-Michel ? Parce que quand il y a la... il y a quelque chose... On va essayer de rester factuel. Quand il y a eu la pénurie des carburants, les gens, ça leur dérangeait pas de mettre le plein à 2,30€, 2,40€. Hein. Je l'ai remarqué. Hein. J'étais moi-même choqué. Parce que, vous savez, quand il y a eu la pénurie, les gens ne regardaient plus le prix.
Non, parce qu'ils regardaient plus. Ils étaient affolés,
exactement, voilà, et ils mettaient le plein. Donc, refaire un comeback des gilets jaunes pour le carburant, pour le prix du carburant, j'en doute. Vraiment, j'en doute fortement. Par contre, il est évident que la réforme des retraites va être très problématique. Et là, il est très fort probable qu'il y ait justement, qu'il y ait des manifestations un peu.
Et pour aller dans ton sens, c'est que Emmanuel Macron a eu la tentation de faire passer cette réforme en septembre.
Ouais,
en pensant
qu'il a reculé,
que janvier, ça serait mieux. Moi, je pense que janvier, ça sera pire, parce que janvier, c'est là où on va avoir tous les problèmes en même temps. Et le carburant qui restera cher, l'électricité, le gaz, qui vont augmenter plus. Parce que finalement, on n'a pas encore vraiment connu l'augmentation, nous, particuliers de l'électricité et le gaz.
Puisque c'est à partir de fin novembre.
C'est à partir de là, maintenant.
De fin novembre, parce qu'à fin novembre, il y a les
contrats se renouvellent. Ça sera plafonné. L'augmentation, je crois, c'est 15%.
15%.
Voilà, c'est plafonné, mais enfin, 15%, c'est quand même énorme.
C'est énorme
plus,
sur
plus
un an.
Tout le reste. Donc, effectivement, faire le pari qu'en janvier, ça sera plus calme qu'en septembre.
Je pense que c'est un mauvais calcul.
Allez-y, Jean-Michel.
Là, le monsieur qui vient de parler a tout à fait raison, parce que moi, je suis concerné. L'URSSAF, on nous l'a lissé pendant le
Covid.
Enfin, voilà, on nous a lissé l'URSSAF en nous faisant... Bon, ça nous a permis de tenir, on va dire. Par contre, maintenant, c'est un scandale. Moi, je peux vous donner les chiffres. Je gagne entre 2000 et 2500 euros par mois en faisant entre 12 et 14 heures par jour, à peu près. Et l'URSSAF, actuellement, me prend pratiquement 4000 euros. Tous les mois.
Moi, excusez-moi, mais moi j'ai toujours trouvé que l'URSSAF, elle viole les petits entrepreneurs, en fait, les TPE, c'est donc, du viol. Voilà.
Donc ça, bon, moi j'avais un gars qui est parti, que j'ai pas remplacé, parce que je peux plus, hein, c'est pas possible. Bon, maintenant, moi j'ai 59 ans, donc je vais tenir, hein, je vais aller jusqu'au bout comme ça. Mais bon, ça va exploser, parce que c'est pas possible. C'est pas possible, tous les artisans vont lâcher l'affaire là, ça peut pas marcher.
Eh bien Jean-Michel, on aura pris un peu la température grâce à vous, à Yves, grâce à Jérôme. Merci Jean-Michel, passez une bonne journée.
Allez, vous aussi.
Du côté du garde.
Merci à vous pour votre émission, hein, parce que vous parlez de choses, tout le monde n'en parle pas.
C'est pour ça qu'on vous donne la parole.
J'écoute la radio toute la journée, moi.
Merci.
Et quand
merci
je regarde Jean-Michel. Les actualités à la télé, c'est plus les mêmes.
Merci Jean-Michel. Allez, de votre fidélité. À Saint-Julien de Cassagne, c'est ça?
C'est ça, Cassagnas.
D'accord. Allez. Quel temps vous avez en ce moment là chez vous?
Là, il fait encore bon, mais apparemment, on aura la pluie d'ici ce soir. Mais là, ça va.
Merci Jean-Michel. À bientôt dans les GG, à bientôt dans les grandes gueules.
Est-ce que Paris, on peut craindre
un retour des gilets jaunes? C'est la question qu'on s'est posée. On en a parlé avec vous là pendant 20 minutes.
Ah, c'est
56.
C'est partagé.
C'est un nom quand même, 56.
Si on a que 43% qui descendent,
mais dans beaucoup de sondages, c'est comme ça à la France. C'est très équilibré quand même.
Allez, dans un instant.
Parce que justement, il y a une fracture sociale qui est terrible en France. C'est ça, c'est qu'il y a des gens qui ne ressentent pas justement ce qui se passe, et il y a des gens qui le ressentent profondément. Et le problème de la France actuellement, c'est ça.